Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de, cette fois-ci, Le Monde, expliqué par mon père.
Pas Le Monde, un gars intéressant dont on va vous parler, parce qu'on en a mentionné à quelques reprises, on a mentionné quelques grands penseurs du passé, et là il y a quelqu'un qui est apparu sur les écrans il y a quoi, 3-4 ans, et qui est tout à fait remarquable.
Voilà, aujourd'hui on va vous parler de cet auteur qui s'appelle Jordan Peterson, qui est docteur en psychologie, qui a été professeur à Harvard puis à l'Université de Toronto et qui est présenté comme un intellectuel subversif alors que je le trouve la plupart du temps extrêmement calme, au contraire, dans ses présentations.
Il s'énerve jamais.
Non, il essaie de jamais s'énerver.
De temps en temps, il a trop mal du coup.
Et c'est quelque chose qu'il explique assez bien, du reste, dans ce livre-là, qui est un best-seller et qui a été vendu, traduit dans le monde entier, que vous pouvez trouver, là, c'est chez J'ai lu, donc voilà, qui est 12 règles pour une vie, une antidote au chaos, et que j'ai lu hier et que j'ai référencé. Donc on va regarder petit à petit les 12 règles en question avec les descriptions.
Et alors, avant de parler de ça, peut-être je voudrais vous dire un petit peu comment je l'ai découvert. Vous savez, on passe sur le YouTube de temps en temps, on regarde des gars, etc. Et puis, il y a, je ne sais pas, 4-5 ans, j'ai vu apparaître ce gars-là, qui était donc un professeur à Toronto, de l'Université de Toronto, et il avait une musique différente. C'est-à-dire que quand les gens parlent, il y en a qui ont une longueur d'onde, si vous voulez, donc la longueur d'onde des gens qui parlent dans le poste, c'est grosso modo ce qu'on a sur, sur France Inter tout le temps, donc vous vous arrêtez assez peu. Et donc j'ai commencé à l'écouter, et plus je l'écoutais, plus je le trouve intéressant. Parce que c'est un homme qui est donc extrêmement brillant et qui est en recherche. C'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui, de l'expliquer, il va chercher des explications. Dans la Bible, chez Nietzsche, chez Dostoïevski. Quelque part, c'est une démarche qui ressemble un petit peu, pas vraiment, mais enfin, c'est un peu comme René Girard. Vous le lisiez, et d'un seul coup, vous savez, vous vous promenez dans la forêt le soir, et puis vous voyez rien, et puis il y a un coup d'éclair, et d'un seul coup, vous voyez tout, et puis vous voyez plus rien. Et donc, c'est ces gens qui vous expliquent des choses, et vous vous dites, bon sang, mais c'est bien sûr. Et vous avez l'impression qu'il vous éclaire le monde. Et comme lui, il part d'un point de vue qui était la psychologie, qui n'est pas un truc qui m'a passionné hein, dans ma vie. Moi, je partais de l'économie, des faits, etc. Lui, il part de la psychologie, mais il part de la psychologie avec une base complètement scientifique, c'est-à-dire des surveys, des sondages, des analyses mathématiques et tout. Donc, ce qu'il dit, pour quelqu'un qui est comme moi, un but d'une pensée rationnelle, et ben c'est passionnant, donc ben voilà, on va vous en parler, mais moi, depuis 5 ans, je suis ce gars-là, je me dis vraiment ce qu'il dit est bien.
Oui, alors c'est assez intéressant à lire parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, alors à l'inverse de toi, il ne va jamais citer des auteurs économiques, quoique si à un moment il cite la loi de Price et donc il parle de Pareto aussi, mais vous avez en commun de citer énormément Solzhenitsyn.
De ne pas aimer le communisme.
De ne pas aimer le communisme et surtout de faire une référence très forte au bien et au mal et à l'empire du mensonge.
Oui.
Et ça, avec René Girard que tu citais, peu nombreux sont les gens qui pensent comme ça et je pense que c'est ça qui t'a en priorité attiré chez lui, c'est-à-dire le blanc et le noir existent et il faut arrêter avec toutes vos tonalités de gris.
Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et ce qu'il y a d'étonnant, d'après tout ce qu'on peut voir, pour vous donner une idée, il est allé récemment en Lituanie, je crois, et ils ont été obligés de louer un stade de foot. Parce qu'il y avait 30 ou 40 000 Lituaniens qui voulaient le voir, donc qui ont posé des questions, etc. Donc et cet homme a une influence énorme sur les garçons.
Oui.
Principalement, on ne sait pas très bien pourquoi. Et il a beaucoup parlé de l'espèce de malaise dont toi et moi on a parlé chez les hommes, tu sais, d'il y a à peu près 3 semaines.
Ben c'est à la suite, en fait, cette émission est un peu une suite de notre émission sur les garçons. On avait fait une première émission sur les garçons, une deuxième pour la débriefer quelque part. Et là, c'est un peu...
Qui nous a mis sur la voie.
Voilà, ben dans la tonalité de cette émission-là. Alors, effectivement, ici, nous sommes, pour rentrer dans le vif du sujet, sur les 12 règles pour une vie. Alors, ces 12 règles pour une vie, donc on est chez un auteur qui est psychologue. Donc il a reçu toute sa vie, il a travaillé dans des centres avec des schizophrènes, des gens qui avaient des tocs. Il l'explique très bien dans son livre qu'il se retrouve avec des gars qui ont des tocs, ils sont obligés de ranger leur pyjama 15 fois par jour.
Ou de se laver les mains.
Ou de se laver les mains, enfin des choses horribles. Et sa première faculté est donc l'écoute. Mais la véritable écoute, pas l'écoute pour se mettre en avant, pas l'écoute pour essayer de reparler derrière, l'écoute véritablement de la personne. Et voilà les 12 règles de vie qu'il en a tirées. Alors, la première règle de vie, c'est de se tenir droit et les épaules en arrière.
Oui.
Et c'est ce que tu disais quand on en parlait, ça a déjà changé le monde, ça commence par ranger sa chambre.
Oui.
Et alors, bon, dans ce chapitre-là, il t'explique qu'en gros, dans le monde, on a toujours été dans un univers de combat, quelque part, et qu'il prend l'exemple des homards, qui sont extrêmement territoriaux, avec le homard principal qui définit son territoire. Et une fois qu'il a défini son territoire, en étant le homard principal, les femelles passent devant et choisissent de sortir de leur carapace pour être saillies par le mâle dominant.
Mais
le
mâle elles enlèvent leur robe.
Elles enlèvent leur robe, mais en fait, ça les rend vulnérables.
Oui, absolument.
Parce qu'en sortant de leur carapace, elles ont une période de vulnérabilité avant que le mâle ne rentre les petites graines pour saillir Madame Omar. Et ce qu'il expliquait, c'est que en fait, on se retrouve dans ce qui s'appelle la loi de Price, qui a été montée en 63, qui est une sorte de graphique en L, qui est que, en gros, dans la nature, 80%
des femelles sont couvertes par 20% des
mâles. Par 20% des mâles.
Ça veut dire qu'il y a 80% des mâles qui la sautent, quoi.
Voilà. Et que cela entraîne aussi quelque chose de terrible, c'est la neurochimie de la victoire. C'est-à-dire que l'influence de sérotonine que va te donner la victoire, va te donner une posture de personne victorieuse, et inversement, tu vas porter le poids du monde sur tes épaules
si tu échoues. C'est tellement vrai, ça.
Et que quelque part, la femelle
le sent très bien.
D'où la nécessité, même si tu n'es pas victorieux,
de
te mettre les épaules en arrière.
De respirer à fond.
De respirer à fond et de te comporter en homard victorieux du territoire. Si tu veux que des femelles homards enlèvent leur carapace. Voilà, c'est règle numéro 1.
J'ai pas appris grand-chose, mais c'est, pour l'instant, ça me paraît... En tout cas, ça paraît de bonne foi.
Voilà.
C'est-à-dire que si tu arrives en te plaignant...
C'est pas très attirant pour les nanas.
Il y en a peu qui m'ont enlevé leur carapace, tu vas dire. Quoi. C'est ça. Donc,
voilà.
Il faut que tu expliques toutes les...
Et c'est le paradoxe absolu de notre société actuelle, où les femmes, soi-disant, demanderaient aux hommes d'être faibles, féminins, quelque part, doux, et tout en leur demandant, quand il arrive un souci, qu'un homme leur parle mal, « Mais tu vas lui casser la gueule !» Alors je dis, mais vous voulez quoi? Vous voulez un homme doux, attentif, mais vous voulez qu'il aille casser la gueule si le type vous prend votre place dans le RER?
Ben voilà, donc ce qu'elles veulent, dans le fond, comme me disait un de mes amis américains, c'est la deuxième ligne de rugby homosexuel, quoi. C'est ça le...
Oui, mais c'est vrai que c'est difficilement...
Autant trop fois partout, quoi. C'est pas... Non, mais tout ça est extraordinaire parce que on retrouve des c'est-à-dire que quelque part on est organisé, c'est ce qu'il va dire aussi, j'imagine, dans des hiérarchies, et que les hiérarchies, c'est très souvent organisé sur la compétence et la capacité à gagner. Donc c'est difficile d'un seul coup, on me demandait aux hommes d'être compétents et de gagner de façon à avoir accès aux femelles, et maintenant on leur dit non, c'est plus ça, mais même les femelles en sont pas sûres. J'avais lu une grande étude il y a quelques années qui m'a fait pleurer de rire. Je ne sais pas si je peux le dire ici, mais enfin, je vais le dire quand même, parce que je dis toujours des bêtises. C'est qu'on avait interviewé un certain nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Et il y a des moments où elles sont fertiles, je crois, les femmes, 3 ou 4 jours par mois.
Oui.
Bon, à ce moment-là, elles voulaient toutes avoir Anthony Quinn. Mmh. Et puis le reste du temps, c'était Leonardo DiCaprio, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elles voulaient, dans le fond, un joli petit garçon. Puis le moment où elles étaient fertiles, elles voulaient une brute, quoi. C'est curieux, ça.
J'ai une théorie sur ça.
Vas-y.
J'ai une théorie sur ça. À partir du moment où on est toutes sous pilule, on va vouloir des Leonardo DiCaprio tout le temps, puisqu'on n'a plus le pic d'oxycitine qui te dit à cet instant du cycle, prends une brute, prends l'homme alpha.
Parce que tu auras besoin de quelqu'un qui te défendra.
Qui va défendre la grotte. Du coup, on reste dans... Le corps va envoyer comme message de vouloir un tendre mou, au lieu d'aller chercher la brute le temps du cycle. Et on se retrouve, quand on est sous pilule, à ne vouloir que des faibles. Je schématise.
C'est possible. Ça explique mon manque de succès.
Et on a aussi un autre problème, c'est qu'effectivement, c'est mal étudié, mais on en parle. Dans les eaux rejetées, on a apparemment beaucoup trop d'œstrogènes désormais. Aussi avec l'alimentation, probablement le lait, probablement le soja. Donc une augmentation de l'œstrogène, donc potentiellement par effet une baisse de la testostérone, par cette hausse œstrogénique alimentaire.
Et ça, ça touche les hommes.
Et ça touche les hommes, les femmes aussi. On se retrouve trop œstrogéniés, plus assez progestérone et plus assez testostérone, parce que nous aussi, les femmes, on a de la testo. Et voilà, et ça aussi, ça cause des problèmes de société.
Oui, et donc on est en train de changer la composition chimique.
En tout cas, dans nos pays.
Dans nos pays, voilà.
Alors, donc, c'est une autre citation que j'ai relevée, que j'avais bien aimée, c'est qu'il disait que justement, toujours dans le homard, cette hiérarchie de domination n'avait rien à voir avec le capitalisme. Elle est structurelle.
Oui.
Elle n'a rien à voir, et c'est important parce que justement, quand la NUPES ou ainsi de suite nous explique que dans un monde idéal, justement, il n'y aurait plus l'hiérarchie, il n'y aurait plus de rapport de domination, c'est fou, c'est faux. Rien n'est plus dans la nature en rapport de domination que les animaux entre eux.
Bien sûr. Et tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'il y a... D'ailleurs, quand on leur donne à bouffer caca tous un chien, ils bouffent chacun leur tour, c'est-à-dire d'abord le dominant, puis le sauvage.
Ils le donnent comme exemple, et c'est vrai que quand tu regardes, et c'est vrai chez les chatons, c'est très mignon, tu vas avoir un des chatons mâles qui défend en général les autres, qui va manger en premier, ensuite deux, trois autres, et ensuite les petites femelles, sur une portée de 6. Et tu peux faire ce que tu veux, ils mangeront dans cet ordre-là.
Et souvent la mère à la fin. Et ma mère, ma chère mère, me disait toujours, si tu sais quel chien tu dois prendre pour qui sera le plus robuste, le plus marrant, etc., tu prends tous les petits de la chienne, tu les mets à 2 mètres de l'endroit où elle est, et le premier qu'elle vient chercher, ce sera le dominant, qui est déjà dominant dans l'hiérarchie. Elle n'ira pas les chercher par hasard, elle ne prendra pas celui qui est le plus près, elle prendra... le dominant.
Tu sais comment on voit dans les portées de chatons, c'est que pour les punir, les mamans leur rongent les moustaches.
Oui, parce qu'ils ne savent plus quoi faire.
Oui, parce que c'est une fessée, oui. En gros. Et donc, quand tu regardes les chatons tout petits, ceux qui ont les moustaches rongées, ceux-là, ils sont très coquins.
Voilà,
c'est le gros coquin.
Exactement.
Et tout ça, quand il a un coin de la moustache rongée...
c'est que c'est lui qu'il faut avoir. Il va faire que des bêtises.
Moi, je fais l'inverse. Je prends toujours celui qui est caché en dessous. Le rend en plan de service. On embrasse le DAF, d'ailleurs. Alors, règle numéro 2 dans les 11 règles de vie. Prenez soin de vous comme vous le faites avec les autres. L'ordre est un territoire connu. Donc là, on a toute une partie très intéressante. Et encore une fois, cet homme est terriblement cultivé. Et c'est vraiment très intéressant de lire aussi bien des passages sur la Mésopotamie que sur le Tibet. Et sa connaissance des Écritures, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, est très rafraîchissante. Et vous avez cela en commun. Encore que sa lecture de l'Ancien Testament, moi en tant que catholique, j'ai une lecture de l'Ancien Testament qu'il remet en cause justement de dire... Vous jugez l'Ancien Testament beaucoup trop durement comme un dieu difficile, judgmental, voilà. Alors que, en vrai, quand on lit un dieu jaloux, un dieu cassant, alors qu'il laisse aux hommes beaucoup plus de possibilités de choix qu'ils ne font pas, et donc il prend des avis en conséquence, comme un parent énervé te donnerait une pichenette plus ou moins grande.
Et souvent, si on fait des bêtises, on n'a pas besoin de Dieu pour nous punir. Le simple fait qu'on ait des bêtises, en général, ne t'amène pas à des résultats satisfaisants. Donc on dit que c'est Dieu qui a puni, mais c'est peut-être simplement la connerie du mec qui l'a amené là où il est, quoi.
Et alors, donc, il a une analyse très intéressante sur le jardin d'Éden, sur l'arbre de la connaissance, sur le fait que l'homme, pris devant le fait accompli, dit « C'est pas moi, c'est elle !» Ce qui est quand même le niveau zéro de l'excuse.
De l'excuse, c'est
le « 1, je l'ai pas fait exprès » et 2, « C'est elle, elle m'a forcé à manger la pomme
oui. ». Elle m'avait pas prévenu.
Oui, voilà. Voilà, maintenant je sais que je suis tout nu.
J'avais lu un livre tordant qui était il y a quelques années par deux auteurs italiens qui étaient marrants comme tout. Et la dernière partie du bouquin, c'était ça se passait, il y avait le maître et une femme qui discutaient. Et tu te rends compte en lisant que c'était le Dieu et Ève. Et Ève dit au Seigneur, écoutez, c'est bien le paradis et tout, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, hein, il n'y a vraiment rien à foutre. Et donc, elle réussit à convaincre Dieu de les virer, quoi.
Ah oui.
Et c'était à mourir de rire, parce que tu vois très bien que, dans le fond, elle disait, bon, c'est bien votre truc, vous venez visiter le journal le soir, c'est sympa et tout, mais enfin... Donc, elle trouve que la vie un peu plus excitante, ça serait un peu mieux, quoi. Donc,
elle voulait aller à Saint-Tropez.
elle voulait aller à Saint-Tropez, exactement. Et donc, à la fin, elle dit, bon, bah, si j'avais
plaisir... Elle trouve que les vacances en Vendée, ça va 5 minutes.
C'est exactement ça. Mais c'était tordant, ce dialogue entre Dieu et elle. C'était à mourir de rire.
Et justement, on arrive à l'idée que la connaissance, c'est la crainte, et que quelque part, savoir, c'est intégrer la peur. Alors, on a des développements sur Dostoïevski qui sont fort intéressants, encore une fois, et que je recommande. Et encore une fois, dans cette notion du bien et du mal, à partir du moment où on a été chassé du paradis terrestre...
À cause d'Ève,
c'est elle. il faut bien voir quand même et reconnaître que l'homme est le seul animal qui génère le mal. L'histoire du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau, que quelque part ça serait la société qui nous amènerait à devenir mauvais, est fausse. On a inventé les pires tortures, on tue sans raison, aucun animal ne le fait sans raison, alors ils tuent parce qu'ils ont la dalle, ou ils tuent pour des raisons de territoire, encore une fois, donc de
ou
domination,
alors
donc d'accès aux femelles.
Ils se tuent pas entre eux, c'est-à-dire qu'il est rare d'avoir une race qui se tue entre eux, mettons, deux lions se battent, et le lion qui perd se met sur le ventre, et
voilà,
l'autre
et
le laisse partir, quoi.
Et il
c'est assez rare d'avoir des animaux qui se tuent entre eux.
Non, c'est extrêmement rare. Et en plus, très souvent, les animaux ont quand même intégré qu'ils allaient avoir besoin les uns des autres. Donc, ils travaillent avec la sous-race. Ils travaillent de concert, ils s'envoient des messages, ils savent quand même travailler les uns avec les autres. Ils ne sont pas en autarcie.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai appris, j'ai lu aussi quelque chose que j'ai trouvé fascinant, c'était il y a quelques jours, c'est que le mongolisme, comment on appelle ça,
le chromosome surnuméraire,
ça existe chez les chimpanzés.
Ah oui.
Je savais pas. Et que toute la tribu s'occupe de lui. Parce que ben voilà, ils se rendent compte qu'il faut s'en occuper, quoi. Donc ça veut
ils se rendent compte que c'est un chimpanzé qui sait pas faire tout seul, qui reste petit.
Qui sait pas faire tout seul, et donc
c'est drôle.
Tout le monde s'en occupe.
Parce que dans la nature, sinon, par exemple, les mamans chats avalent les bébés chats qui sont pas normaux.
Parce que là, les chimpanzés, ils s'en occupent tous, mais ça veut dire donc que l'effort de solidarité est instinctif.
Oui.
C'est-à-dire, même chez les animaux, s'il y en a un qui a pas la forme, paf, il y a des gens qui vont s'occuper de lui.
Mais tu le vois chez les lions. Chez les lions, très souvent, j'avais vu un reportage comme ça, dans les quêtes en Afrique du Sud, les mouvements, tu sais, ils vont vers l'eau, ils remontent,
entre femelles.
Et ainsi de suite. Elle se passe l'enfant.
Oui, elle se passe l'enfant.
Entre femelles. Il y en a une qui est blessée, elle appelle une autre lionne et elle lui dit, bon, je sais pas comment elle communique, mais elle lui dit, en gros, ça va pas fort. Elle reste derrière. Et l'autre lui dit au petit, non, vous suivez avec moi, vous suivez le troupeau. Et la lionne blessée va rester derrière pour mourir.
Oui.
Et elle passe
chez les
ses
femelles,
enfants.
Mais pas entre mâles.
Non, elle passe ses enfants à une autre femelle. Que ce soit une sœur, une tante, elle passe ses enfants.
Oui, on verra quand encore une anecdote. C'était mon grand-père qui était en Afrique, qui chassait. Il était gouverneur des colonies, donc il devait être quelque part au Dahomey. Il tire dans un buisson, il avait entendu quelque chose. Il va voir ce qu'il avait tiré. Et il y avait une femelle chimpanzée, je crois, qu'il avait tuée, et qui prend son bébé et qui lui donne.
Oh. Plus jamais je touche un fusil de ma vie après.
Non, mais c'est plus jamais il a touché un fusil de sa vie d'ailleurs. Il a su s'être chassé pour toujours.
Non, mais j'imagine qu'il l'avait fait pour se défendre parce qu'il se pensait que c'était un
non,
guépard,
il chassait
quelque
parce
chose.
Qu'il y avait plein d'animaux, donc il s'est dit j'ai dû tirer sur un, je sais pas quoi. Non, mais c'était. Ça fait. Donc il y a des trucs qui sont un petit peu douloureux là. Non, mais encore une fois, on retrouve donc cette espèce de nécessité de la collaboration, et il ne peut pas y avoir collaboration s'il n'y a pas hiérarchie.
C'est vrai.
Une collaboration sans hiérarchie, ça ne marche pas.
D'ailleurs, il y a un passage assez drôle sur la collaboration, et c'est drôle parce que c'est assez vrai dans les pays du Nord. où tu vois la Suède, la Norvège ou ainsi de suite. Et lui était de cette région d'Alberta où il fait terriblement froid.
Il était dans le nord de l'Alberta où il faisait moins 45.
Il fait moins 45, c'est ce qu'il explique. Il dit si ton chat domestique s'en va, tu es sûr qu'il revient, il n'a plus de queue, il n'a plus d'oreilles. Hein, parce que tu te frottes sur le sol. Bon. Donc, nécessité faisant loi, tu es obligé de développer des compétences avec tes voisins pour t'aider parce que tu... Et c'est pareil dans les pays du Nord, tu ne peux pas véritablement...
Mais tu veux,
oui, surtout autrefois. Bon, de nos jours, effectivement, on a des moyens pour... mais tu es obligé de se regarder les uns les autres, tout va bien, vous avez toujours l'électricité, voilà, le petit, vous avez besoin de quoi, je vais au cours, je peux vous ramener un truc, parce que tu ne peux pas fonctionner tout seul. Quelquefois, tu es bloqué chez toi pendant 5 jours.
Quand tu es dans une île avec des cocotiers, bah, tu as moins besoin de collaboration.
Tu as moins besoin. Alors, règle numéro 3, choisissez des amis qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors là, il raconte toute une partie où il avait un ami qu'il avait quand il était en faculté, qui s'appelait Chris, qui est tombé dans la drogue. Et son effort, son souhait avec son épouse pendant un temps de le sortir de là, mais encore une fois, aide-toi, le ciel t'aidera, et quelquefois les gens n'ont pas envie d'être aidés, et on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, et que quelque part, il s'ensuit un paragraphe assez intéressant, enfin des paragraphes assez intéressants, où il explique que on peut avoir une certaine vanité aussi à s'entourer de gens à sauver. Et ce faisant, en fait, on se coule soi-même.
Oui.
Donc,
je crois que c'est vrai.
Quelque part, s'entourer de personnes qui veulent le mieux pour toi, et pour eux, et ne pas tenter toujours d'être le sauveur de quelqu'un, parce que en vérité, il y a des âmes qui ne sont pas sauvables, et on peut soi-même couler, faisant. Donc c'est un parcours difficile de. Après, il y a des personnes qu'on doit aider. J'imagine quand c'est sa famille, ses enfants. Lui a une enfant. De toute façon, il se pose pas la question en ces termes-là, mais qui était malade, qui a été touchée par le fait que ses os se calcifiaient. Donc elle a dû avoir beaucoup d'opérations, ce qu'elle a réussi plus ou moins à contourner avec une alimentation basée sur simplement de la viande rouge et de l'eau.
Oui, c'est ce qu'il fait lui aussi.
Voilà. Alors, règle numéro 4, il faut se comparer à la personne que vous étiez hier et non à quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. C'est aussi ne pas se comparer, et c'est d'autant plus vrai à notre époque de réseaux sociaux à outrance.
Tu vois toujours des gens qui ont réussi, qui sont...
Avec des images factices et ainsi de suite. L'important, c'est de se comparer soi-même. C'est presque petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est pas de regarder le corps que tu pourrais avoir si tu étais mannequin Victoria's Secret, mais de se dire, bah voilà, est-ce que moi, j'ai essayé de perdre les 2 kilos que je voulais perdre? Est-ce que ça, j'y suis arrivée? Voilà, c'est ces petites victoires-là. Non, mais c'est pas, soi-même, c'est par rapport à soi-même, ce qui implique à la fois d'être réaliste et doux,
il faut
gentil.
Il faut être gentil avec soi-même. Je me souviens, il y avait le cardinal primat d'Angleterre qui avait fait un sermon un jour, des enfants qui venaient de faire leur première communion. Sa mère était française, donc il l'avait fait en français, ce sermon. Et il avait dit, et n'oubliez jamais de ne pas être trop sévère avec vous-même. J'avais trouvé cette phrase assez forte, parce que je me disais, c'est vrai que on regarde tous ces gens qui font des trucs extraordinaires, et on se dit, je suis vraiment une grosse merde. Quoi. Mais ça dépend, c'est d'où tu viens, ce que tu as fait. Et c'est là on retrouve cette notion de... C'est peut-être parce qu'on voit trop aujourd'hui les gens qui réussissent de façon extraordinaire. Donc, mais autrefois, quand tu étais dans un village, je sais pas, moi j'avais un de mes amis qui était, quand j'étais au lycée d'Auch, qui venait d'un petit village du Gers, qui était extraordinairement intelligent, et son ambition dans la vie, c'était d'être instituteur.
Oui.
Et parce qu'il n'imaginait rien au-dessus de l'instituteur.
Oui, mais ça, il en parle aussi, il dit qu'à une époque aussi où tu vivais justement dans des petits villages, tu avais quelque part une...
Si tu étais le premier du village, tu étais...
Tu étais le meilleur joueur de tennis de ton village, tu avais un statut.
Absolument.
Tu avais un statut. Hein,
instituteur du village.
T'avais un statut. Maintenant, dans un monde où les villes nous ont permis quelque part d'être tout et n'importe quoi, eh ben, on est peut-être aussi souvent n'importe quoi. Parce que tu vas être confronté, tu vas peut-être même pas être le meilleur joueur de tennis de ton club. qui lui-même est un club de troisième zone, qui est même pas machin. Donc le statut que tu avais autrefois n'a plus lieu d'être.
C'est ce que disait César, il disait il vaut mieux être le second dans son village, le premier dans son village, que le second à Rome. C'est-à-dire que le second, c'est insupportable, dans l'hypothèse de la hiérarchie. Si toi, ton but, c'est d'être en haut de la hiérarchie, s'il y a un gars qui est arrivé à ta place, t'es très fâché.
Ah bah, dans la hiérarchie, ça t'empêche l'accès aux meilleures femelles.
Ah oui, exactement. Mais en plus, dans nos mondes autrefois, le père, c'était le chef de famille quand même. Donc c'était l'homme, il avait... Aujourd'hui, on ne sait pas trop bien ce qu'il
avait. C'était lui qui décidait ce qu'on allait bouffer ce soir. Ce qui était quand même une question importante.
Pas toujours, mais il décidait où on allait passer les vacances, la voiture qu'on allait acheter, les études que les enfants faisaient. Donc le père avait un vrai rôle. Alors maintenant, ce qu'on a discuté avec toi, les garçons, ça fut très bien quel est leur rôle. Donc dans les hiérarchies familiales, qui étaient importantes pour donner du poil aux pattes aux garçons, ben, on ne sait plus très bien où le garçon se situe. Quoi. Il est moins doué que les filles. C'est embêtant, hein.
Alors, règle numéro 5, j'ai beaucoup aimé ces règles-là parce que ça a été un père attentif. Il a donc deux enfants, une fille, un garçon. Défendez à vos enfants de faire ce qui empêcherait de les aimer. Et alors là, c'est assez intéressant parce que alors il décrit quand il éduquait ses enfants petits et vers 2 ans, il y a les terrible twos, on dit en anglais. C'est-à-dire une espèce de crise de
préadolescence
chez le 2 ans qui souvent va aller en s'opposant. Alors c'est terrible parce que l'enfant ne communique encore pas très bien, il parle à peine. Et moi, par exemple, ma seconde a une phase terrible où elle refusait de manger autre chose que des choses blanches. Alors, aujourd'hui, on sait que c'est souvent un problème de perception. Mais c'est terrible pour un parent, un enfant qui ne mange plus. Et tu rentres dans des crises de volonté où tu restes avec l'enfant, assis à table littéralement 2 heures, 3 heures, 4 heures, en disant « tu vas manger ci, tu vas manger ça ». Bon. Et lui a eu pareil avec des enfants qui te crachent. Ses explications, c'est-à-dire la nécessité, quelque part, en tant que parent, de fixer des règles. Alors après, il dit, le problème, c'est qu'on est dans une société où les parents vont dire « oui, mais c'est autocratique ». Pourquoi vous décidez ces règles? Mais parce que simplement, même pour l'enfant...
L'enfant en a besoin.
L'enfant en a besoin. Et moi, je l'ai vu, ayant une fille très anxieuse, la nécessité, le fait d'avoir un cadre, de dire, voilà, à 5 heures, c'est le bain, à 6 heures, c'est le devoir, à 7 heures, rassure l'enfant terriblement, et il en a besoin. Quant aux règles, c'est les mêmes. Moi, je rigolais toujours, je disais, c'est qui le chef? Et les filles répondaient, c'est maman le chef. Oui, bah, c'est maman le chef, c'est maman qui décide, et c'est important malgré tout. Et lui a exactement le même... Alors, évidemment, ça veut... Alors, on ne parle pas de châtiment corporel, ni de battre l'enfant comme plâtre. Quelquefois, le simple fait de mettre une pichenette... mais l'idée que l'enfant pourrait être absolument roi, et moi, ce que faisait ma grand-mère quand un enfant mordait, elle leur mordait.
Je me souviens. Sa grand-mère, c'était ma mère.
Oui.
Je me souviens.
Non, mais t'apprends vite qu'il ne faut plus mordre. Hein.
Surtout quand ils étaient en train de téter. Alors là, évidemment, elle sautait partout.
Non, mais c'était quand les enfants avaient 2 ans, 3 ans, et quand ils jouent. Les uns avec les autres, les enfants sont terribles. Ils se volent les trucs, ils se mordent, ils se mettent des coups de pied. Comment tu apprends à...
Mais l'enfant est bon, ma chère.
Voilà.
En fait, moi, je peux vous
raconter. L'enfant est une teigne. Hein.
L'enfant est une teigne. Et puis, alors, quand ils sont dans les petites classes, ils sont tous d'accord pour taper sur eux-mêmes. Hein.
Bah, raconte ton frère qui a voulu te couper l'oreille.
Ah oui, non, j'ai voulu couper l'oreille de mon frère parce que le chat avait faim, parce que ça ressemblait à du mou. Mais enfin, ça, c'est une histoire familiale.
Oui, donc, tu t'es baladé avec des ciseaux.
Et deux, je lui ai coupé l'oreille. Il y avait toujours une cicatrice, d'ailleurs.
Ah, tu l'as coupé l'oreille parce qu'il s'est dit, tiens, on dirait du mou.
Le chat va aimer.
Le chat va aimer si je lui ai coupé l'oreille.
Hein.
Oui, oui, mais... Et l'autre s'est dit, tiens, si je me laissais couper l'oreille, quoi.
Oui.
Non, mais c'est magique, quoi. Et ce qu'il y a d'assez, c'est vrai, c'est que je le vois autour de moi, les parents aujourd'hui, spécialement les Américains et compagnie, sont terrorisés par leurs enfants. Ils n'osent plus discipliner. Alors, on rentre dans une espèce de fausse bienveillance. Oui, tu sais que ce n'est pas bien d'arracher les yeux de ton frère à la truelle. Je dis pas. On peut peut-être y aller un peu plus fort que ça. Tu vois.
Non, mais il y a des. C'est-à-dire que. Oui, c'est toujours pareil. Les enfants, ça pousse. Donc, c'est comme s'il y a une porte sur laquelle ils poussent qui s'ouvre, ils vont voir ce qu'il y a. Donc, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et bien, à un moment, ils doivent trouver des portes fermées. Et un jour ou l'autre, il faudra. Si on leur laisse toujours les portes ouvertes, ben. Ils apprendront jamais le côté, on n'arrive à rien sans discipline. Pour, une fois qu'on est discipliné, on peut faire partie d'une hiérarchie. Il y a toute une série de règles qui suivent les autres comme ça. Toutes ces règles sont emboîtées comme des poupées russes. Hein. C'est clouc, 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 clouc. C'est pour arriver à survivre en société. Quoi.
Mais ce qu'il dit, et ce qui est assez vrai, c'est qu'après, du comportement de l'enfant va naître le comportement de l'adulte. Un enfant, par exemple, on dit toujours que les enfants français sont bien élevés, qu'on peut les amener au restaurant, mais c'est vrai. Mmh. Et comme l'enfant va bien se comporter au restaurant, l'adulte tiers va le féliciter en disant « mais comme elle est jolie, cette petite fille, comme elle est gentille. »
Il ne va pas gueuler.
Mais l'enfant sera flatté, lui-même sera re-agréable, et ainsi de suite. Donc l'enfant lui-même, son rapport avec l'adulte tiers, va être infecté par la façon dont il se comporte. Donc c'est un service à lui rendre, parce que les adultes seront bienveillants avec lui si lui-même a une attitude en capacité avec autrui.
Bah, c'était la jeune Cara, la fille de ta sœur, là, qui était, quand elle avait 2-3 ans, quand elle commençait à trouver qu'elle était vraiment trop insupportable, elle allait se foutre au coin toute seule.
Oui, elle s'auto-mettait au coin. Je me mets en time-out.
Et donc elle allait se foutre au coin, on était dans un restaurant en Italie, elle avait été odieuse, elle va se foutre au coin. Alors tous les Italiens la regardaient, mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle y va, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Bon, on lui a dit rien, on n'a fait rien du tout, c'est elle qui est allée.
Elle s'auto-jugeait insupportable en disant, je m'auto-soule, je prends mon carton, mon carton rouge, je sors,
je suis viré. Mais c'est elle qui, j'ai toujours trouvé cette idée tordante de l'enfant qui dit, bon, mais j'en ai marre, je vais mettre dans un coin.
Oui, mais quelquefois tu sens que tu as ta colère qui monte et tu dis, bon, bah, là je suis en colère,
je vais les mettre dans un coin et je ne vais pas faire de bêtises. Mais oui, c'est pas plus bête.
Oui, quand tu sens que les mots vont sortir, voilà. Bon, mais en même temps, c'est bien parce qu'elle avait conscience de son environnement.
Oui, tout à fait.
Alors, règle numéro 6, balayez devant votre porte avant de critiquer les autres.
Oui, ça, c'est la poutre et le brin de paille, quoi. Ça, c'est. Moi, je suis toujours surpris de voir les gens qui portent des jugements sévères. Et quand tu regardes la façon dont ils vivent, tu te dis, mais. Ça me paraît pas. Donc oui.
Alors, c'était assez intéressant parce que.
C'est-à-dire, ça fait toujours la même chose. Faites ce qui a un impact sur vous. Vous occupez pas trop de la façon dont vous pouvez avoir un impact sur les autres, sauf vos enfants. Faites ce qui peut vous tendre à vous améliorer. Et c'est vrai.
Alors là, dans ce chapitre-là, il y a tout un grand développement sur Tolstoï. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et le fait de refuser le nihilisme. De quelque part aussi, l'acceptation de la vie courante, c'est aussi refuser l'espèce de choix pratiquement russe aussi dans l'âme, que de toute façon c'est foutu, on va tous mourir, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de volonté positive de s'insérer aussi.
Et qu'il n'y a rien de mal à faire toujours la même chose, mais le faire bien. Quoi.
Voilà.
C'est pas pour ça qu'on est un être de peu.
Alors, il y avait la règle numéro 7, c'était se concentrer sur l'essentiel et non sur l'opportun. Quelque part, on revient donc dans la règle numéro 6 à la notion que vivre, c'était l'acceptation de cette souffrance et quelque part l'inéluctabilité d'une certaine vie, de la mort, et presque la farce que ça peut représenter, mais en l'acceptant sans être amer face à la Dostoïevski sur ce qu'on pourrait être.
Peut-être il ne faut pas l'accepter avec amertume, il faut l'accepter avec joie, en disant, bah, écoutez, oui, bah, je ne sais pas, quand il fait beau, c'est la petite chanson, là, c'est...
Je vais bien, tout va bien.
Aujourd'hui, c'est le printemps.
Oui. Oui, non, mais tu peux le voir comme ça, mais si tu veux, dans Tolstoï, il y avait la première chose, c'est que tu peux choisir de mettre des œillères, vivre ta vie de façon, je fais toujours le même travail, je remets pas en cause. Et puis, tu avais le troisième qui était finalement de dire, tout ceci est sordide, de toute façon, on va tous vers la fin des temps, c'est Méphisto, c'est...
Oui, à la fin, il est allé mourir dans une gare tout seul, parce qu'il n'en pouvait plus de la routine de sa vie, d'être dans sa propriété...
Après, je pense que quand tu es dans des pays où il fait moins 40 et tu as une heure de jour par jour, ça aide pas fondamentalement.
Ça aide pas à devenir gay fondamentalement, non, c'est ça. Non, mais Paul Tolstoï, il avait des grandes angoisses métaphysiques.
C'est l'âme slave aussi.
C'est l'âme slave. De temps en temps, ils partent.
Il y avait peut-être aussi des petits fonds de syphilis qui traînaient dans
ces... C'est pas possible.
Qui n'aidaient pas forcément à le...
Non, mais il y a un empereur de Russie qui, d'un seul coup, a dit... Enfin, il est mort très jeune. Enfin, il était empereur. Et puis, pendant très longtemps après, il y a des gens qui ont dit qu'ils l'ont vu, qu'il était moine quelque part au fin fond de la Sibérie, parce qu'il voulait... Donc, il y a cette... les pays dans lesquels il y a eu ce qu'on appelle le monachisme, c'est-à-dire cette espèce de truc où tu vas te mettre dans une grotte tout seul, il y en a eu très peu de ce genre-là dans notre Occident. Mais en Orient, il y en a eu un paquet, hein, et en Russie, il y en a un paquet. Donc c'est une façon de considérer que la vie est une drôle de chose et d'aller tout seul dans une grotte pour prier. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu chez nous, mais que...
Ah, je sais pas, il y avait cette tradition des femmes qui étaient emmurées vivantes quand elles, justement, ne voulaient pas prendre un mari et devenir... elles étaient religieuses. Et il y avait, comme ça, des espèces d'isoloirs qui étaient sur les ponts.
On leur donnait à bouffer ?
On leur donnait à bouffer. Alors, il y en a une assez connue qui a tenu que 3 ans, mais il y en a une qui a tenu 36 ans, comme ça. Elles étaient enfermées dans des pièces où elles pouvaient à peine s'allonger. Et quand elles refusaient un mari, alors les villages les nourrissaient. Et elles priaient pour le village.
Ben oui, ça, c'était...
C'est une drôle de vie, quand même.
C'est une drôle de vie.
Bon. Alors, il parle aussi de la nécessité, dans la construction mentale, d'intégrer la notion de gratification différée.
Ah oui, ça c'est essentiel, ça c'est la base même du capitalisme, si je veux dire. C'est-à-dire que c'est le coup de l'écureuil qui met des noisettes pour l'hiver, quoi.
Alors, il l'explique très bien parce qu'il dit, alors il y a deux choses, il y a effectivement de se dire... Je ne vais pas manger toutes mes noisettes tout de suite, je vais en mettre plus tard. Mais c'est comprendre aussi l'intégration avec l'autre, c'est-à-dire je tue un mammouth, je vais partager mon mammouth avec toi, pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que je me dis que peut-être qu'en toi, tu auras tué un mammouth, tu m'en fileras aussi. Donc, dans le partage et dans le fait de développer des relations sociales, il y a aussi la notion de peut-être que plus tard, tu me feras bouffer sur ton mammouth.
On s'est rendu compte que le commerce avait d'ailleurs commencé historiquement, il y a très longtemps, paraît-il, entre des gens qui, dans le fond, tuaient des bêtes à sang chaud, là. Puis il y avait des gens qui pêchaient des poissons et qu'ils ont commencé à échanger des poissons contre...
Parce qu'ils en avaient marre de bouffer que des carpes et les autres des mammouths.
À partir de là, ils ont commencé à échanger. Donc on s'est dit avec quoi on échange, c'est la naissance de la monnaie. Puis paraît-il, tout est parti comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que l'histoire est belle.
Ça semble logique parce que tu dis bouffer toujours la même chose, t'as un peu envie d'essayer quelque chose de différent.
Ouais, et puis tu vas voir. Et puis t'as besoin d'échange. Ça devient volontaire et donc les gens se rapprochent. Donc cette histoire de... Parce que, bon, les animaux n'y arrivent pas. Ce que disait Milton Friedman, Glung, buvons un coup. Ce que disait Milton Friedman, c'est que les animaux ont le sens de l'humour, font des blagues, se marrent.
Les pandas, c'est des petits. Ils
font des croche-pieds.
Ils passent leur temps à jouer, faire des roulés boulés.
Mais aucun animal ne fait du commerce. Donc le truc, bon, je mets mes noisettes de côté. Mais lui, il a mis de côté...
Je crois qu'il y a des singes femelles qui échangent des bananes contre des faveurs sexuelles, j'ai lu.
Oui, c'est possible, ça, mais je...
Si tu leur apportes des belles bananes, elles...
Oui, c'est ça, mais c'est pour la consommation tout de suite.
Oui.
C'est pour la consommation tout de suite. On n'a jamais rencontré une femelle à qui tu donnes une banane...
Qui la garde pour l'échanger contre deux coquillages.
Ou bien qui va donner la faveur sexuelle dans 3 semaines, tu vois. Le singe de service...
Je pense que c'est plutôt le singe qui n'est pas d'accord.
C'est probable. Donc cette histoire de consommation différée, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça que j'en veux. Parce que ça veut dire que le besoin d'épargner, comme on est tous craintifs, on a peur du futur, ce qui est bien normal, le besoin d'épargner est un besoin très très fort. Et si tu n'as aucun outil pour épargner, ce qu'on a fait aux Français depuis une dizaine d'années, ça te détruit une morale, quoi.
Ça détruit une morale parce que, effectivement, si tu pars du principe que c'est un atavisme, un besoin...
Mais c'est un besoin.
Tu reviens sur quelque chose qui est consubstantiel à ta nature. Donc, ça te détruit, bien sûr.
Mais Balzac disait quelque chose qui m'avait frappé à l'époque où j'ai lu Balzac. J'ai eu un grand moment Balzac. Il disait qu'il y avait deux instincts qui étaient extraordinairement forts chez une femme d'avoir un enfant quand elle avait 18-20 ans. Chez un homme, de laisser quelque chose à ses enfants quand il avait 60 ans. Et ça voulait dire que tu te dis, bon, j'ai mis ces gens au monde, mais dans le fond, ils sont vraiment pas doués. Donc je vais essayer de leur donner de quoi tenir le coup, même quand je serai plus là, quoi. Et c'est un instinct très très fort, et on empêche cet instinct de se développer, alors que c'est à partir de cet instinct, quand il y a du capital qui s'accumule comme ça, qu'on peut développer le futur.
Bien sûr que tu peux...
Parce que là, le capital, il est bouffé par des gens qui le donnent à des gens qui ne travaillent pas, ou je ne sais pas quoi, enfin les transferts sociaux. Et du coup, les gens sont déboussolés. Je crois qu'une des grandes raisons du malheur de la France aujourd'hui, c'est que les Français adorent épargner et qu'ils n'ont plus d'outils pour épargner. C'est idiot.
Alors, règle numéro 8, que j'aime beaucoup aussi, c'est dites la vérité ou du moins ne mentez pas.
Ah, ça, c'était essentiel. Vous pouvez faire ce que les Anglais appellent être économe de la vérité. C'est-à-dire que, vous savez, dans le Parlement britannique, si vous dites un mensonge et qu'on prouve que vous avez menti dans le Parlement, pour un type qui a été élu, hein, vous avez menti dans le Parlement, vous partez en tôle. Moi, j'ai un de mes amis qui a pris comme ça 4-5 ans de tôle.
D'ailleurs, sans vouloir dire du mal des gens, Thérèse, il y a une histoire de message sur WhatsApp de Boris Johnson pendant la crise du Covid en ce moment qui sort dans les médias anglais.
C'est pas net. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne l'ait pas dit au Parlement. Donc, si on ment au Parlement, on est... mais il y avait un type qui lui avait dit « Vous ne nous l'avez pas dit ». Il a dit « Non, non, j'ai été économe de la vérité ». Et alors, si tu ne dis pas...
Tu retiens une information.
Tu retiens une information... ça n'est pas mentir. Et donc, ce que dit Jordan Peterson, c'est ce que disait Solzhenitsyn déjà, c'est le mensonge ne passera pas par moi. Vous pouvez écouter un mensonge, l'enregistrer, mais vous ne devez pas le répéter. Parce qu'à ce moment-là, ça amène la société dans des impasses monstrueuses. Donc, cette idée de le mensonge ne passera pas par moi... Bon, si vous êtes en train de discuter avec le type qui vous fout des impôts, là, l'employé des impôts, il y a peut-être quelques informations dont il faut faire l'économie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Tant qu'il ne les a pas trouvées, vous n'avez pas...
Ou quand votre femme vous dit « Est-ce que ça ne me grossit pas ?»
Est-ce que cet homme me grossit ? Et si vous lui dites oui...
Voilà. Mais sinon...
Sinon... Il y a un type qui était réveillé ici il y a quelques années, que j'aime bien d'ailleurs, qui est un type intelligent, qui rentre et qui voit Emmanuel, et qui dit « Tiens, vous êtes beaucoup moins bien que sur la télévision. »
C'était pas nécessaire.
Il aurait pu faire l'économie de cette...
C'est beaucoup mieux sur vos photos. Voilà, il y a des trucs, tu te dis, forcément, après, je l'aime pas forcément, moi, ce gars. Donc je tirais le nom.
Le gars qui était avec ta mère.
C'était un jour où j'étais pas très en forme, c'est vrai, et pas maquillée.
Non, mais il y avait un type qui était un architecte très connu, qui était entré assis avec ta mère d'un côté et une amie de ta mère de l'autre. Et il s'assoit et il dit « Je suis assis entre la beauté et l'intelligence ». Je me suis dit « Celui-là, il va se faire deux amis, là, c'était gagné ». Donc il y a des trucs où on peut faire l'économie.
Voilà.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut mentir.
Oui, je pense que c'est très important.
De faire la distinction. D'abord, c'est important pour soi parce que comme ça, on sait ce qu'on pense être un mensonge. On doit réfléchir sur ce qu'on ne doit pas dire. Et ça, c'est déjà un progrès incroyable.
Oui. Alors ça, la règle numéro 9, j'ai eu un peu de mal parce que, à titre personnel, au contraire, j'ai eu l'impression de plus arriver dans la vie une fois que je partais du principe inverse, mais bon, je vous la donne. La règle numéro 9, c'est partie de principe que celui que vous écoutez, on sait plus que vous. Moi, au contraire, j'ai l'impression d'arriver quelque part à partir du moment où je me suis dit, c'est tous des abrutis, mais bon. c'est un chapitre, on peut pas être d'accord sur tout.
Non, mais ça, c'est quand il écoute, ça vient de son métier, donc il écoutait les gens, et dans le fond, ce qu'il te dit, c'est que les gens venaient lui parler des problèmes qu'ils avaient. Donc, ils pensaient que le gars qui était sur son canapé, là, en savait plus que lui sur ce qui le troublait, lui.
Oui.
Donc, de la part d'un psychologue, je comprends assez bien ce qu'il veut dire. Maintenant, de temps en temps, il y a des gars qui commencent à se plaindre, t'as envie de leur dire, bon, un grand coup de pied dans le derrière, ça sera pas plus mal, mais...
Non, parce que, en fait, c'était dans cette règle numéro 9, il parlait de la qualité d'écoute dans les débats, dans son métier, ainsi de suite. Et il est vrai que quand tu regardes des débats, la plupart du temps, les gens ne s'écoutent pas.
Ah non, ils attendent avec impatience de placer leur truc.
De placer leur truc et de dérouler le tunnel. C'est déjà extrêmement rare quand ils rebondissent sur la question. Mais ils vont rebondir sur la question pour dire « Alors, vous m'avez parlé des dépenses étatiques, j'y reviendrai, ils n'y reviennent jamais, mais je vais d'abord vous parler des PIB, de machin. » Ben oui. Voilà. Et en définitive, donc, les gens, effectivement,
ne s'écoutent pas,
n'interagissent pas à dessein, soit parce qu'ils n'en ont pas du tout envie, soit parce qu'eux-mêmes ont un ordre du jour qui est de placer leur connerie. Et c'est assez rare de véritablement écouter. Donc ça, ça partirait du principe qu'effectivement, dans un débat, on cherche à trouver une solution, ce qui n'est jamais le cas, quand même. Globalement, c'est pour faire son intéressant.
Non, le but du débat, c'est qu'il soit entendu par d'autres. Je veux dire par là, pour moi en tout cas, si je débat avec, je ne sais pas, Attali ou je ne sais pas qui, ça m'est arrivé une ou deux fois, je ne cherche pas à convaincre Attali, parce que je sais qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Mais par contre, il y a des gens qui vont écouter mes arguments et les siens, et j'espère les convaincre que les miens sont meilleurs que les siens.
Donc, oui, mais
le
pour
but
ça...
du débat, c'est pas que l'autre soit convaincu, c'est que tes arguments soient de meilleure qualité et
oui,
mieux entendus.
Quand tu fais une plaidoirie, tu vas reprendre les arguments de ton adversaire en disant « Mon confrère vous a dit, point numéro un, là, ça n'est pas vrai parce que ABCD. Il vous a dit dans un deuxième temps, ainsi de suite, et ça n'est pas vrai parce que ABCD. » Normalement, tu devrais reprendre les arguments de ton adversaire et les démonter un.
Oui.
Peu de gens font ça.
Oui. Mais parce que c'est très difficile, parce que pour ça, il faut d'abord que tu aies entendu et écouté. J'ai parlé d'Attali. J'avais fait un débat avec lui au Portugal il y a pas mal de temps déjà. Et chaque fois que je disais quelque chose, il disait je suis d'accord avec
mais
Charles.
Mais ça, c'est une formule de rhétorique très connue.
Mais ça me rendait chèvre parce que je lui disais, mais vous ne pouvez pas être d'accord avec moi.
Donc
ça veut dire qu'il n'avait pas écouté mon argument. Il n'avait pas intégré.
Zemmour fait tout le temps ça. Zemmour fait absolument tout le temps ça. Quelle que soit la chose que quelqu'un dit, il va dire je suis d'accord du reste, mais pas vraiment, et il rebondit à partir de là. C'est une formule de rhétorique connue.
Connue, mais je trouve ça très fatigant.
C'est lassant. C'est lassant parce que d'abord, moi, je préfère une bonne opposition bien franche. Et encore une fois, ne mentez pas. Si t'es pas d'accord, tu me le dis en face. Et puis, on avance. Voilà. Et bien, ce qui nous amène à la règle numéro 10, soyez précis dans votre discours.
Parce qu'il est très intéressant. J'ai écouté beaucoup de ses débats avec des gens. Il en a ratatiné tout un tas parce qu'il est remarquable en débat. Et d'abord, il parle lentement. Et on sent que chaque mot qu'il dit est mis à sa place et à son sens. Et très souvent, il a en face de lui des gens qui mettent des mots dans le mauvais sens et à la mauvaise place. Et là, il les ratatine. Et donc, il a une espèce de précision dans la parole.
Oui, c'est chirurgical.
Qui est vraiment chirurgical, qui est absolument remarquable. Et ça, c'est un truc qui requiert beaucoup de travail. Parce que, si j'ose dire, la parole va plus vite que la cervelle. Parfois, il y a des choses qui sortent, tu te dis, j'aurais pas dû, mais malheureusement, c'est sorti. Quoi.
Surtout quand les émotions prennent le pas.
Surtout quand on a un coup de sang, qu'on devient tout rouge.
Oui, surtout quand les émotions prennent le pas sur la pensée.
Oui.
Mais
lui, il laisse jamais sa pensée dominer sa parole. On sent que la parole, il réfléchit littéralement à chaque mot qu'il dit.
Et ça, d'ailleurs, il a un langage extrêmement châtié, très soutenu en anglais. Ce qui est rare et plaisant en même temps.
Plaisant parce qu'on comprend chaque mot de ce qu'il dit. Et encore une fois, il fait un effort considérable. S'il emploie un mot que les gens comprennent pas très bien, il l'explique immédiatement. C'est-à-dire qu'il en donne la définition, ce que ça veut dire, et on comprend que ce mot est à sa place. Donc ça, c'était autrefois ce que faisaient les... C'est pour ça qu'autrefois, on aimait les gens instruits, c'est qu'on apprenait par leur intermédiaire, simplement en les écoutant. Mais maintenant, j'écoute. Mais en même temps, si tu veux, De Gaulle, je crois qu'il l'utilisait dans cette formule, je ne sais pas combien.
Bien sûr,
2400 mots, je ne sais pas combien. Pompidou, c'était 2000. Et Sarkozy, c'était 400, quoi. Mais je ne suis pas sûr de celui-là, d'ailleurs.
Sarkozy l'a fait exprès. Sarkozy a fait une espèce d'opération de com volontaire qui est très perceptible. C'est drôle parce que je vais revenir récemment dans une chaîne, il y a tellement de chaînes, quelqu'un prenait la parole et disait « Macron ceci, Macron cela ». Et une députée Renaissance se lève sur ses grands chevaux et dit « Ah, vous pourriez dire Monsieur Macron ». Et la personne en face lui a répondu un truc de « Si je suis pas demoiselle de magasin, je vais pas dire Monsieur Macron ». Bon, alors, pour vous dire, suivant le code français, on ne dit pas « Monsieur Tartempion ». Hein, quand on s'adresse à quelqu'un. On peut dire, en parlant de Charles, « Monsieur Charles Gave », à la rigueur, mais vous employez tout le nom, mais vous ne dites pas « Monsieur Gave » en lui parlant directement. C'est des codes comme... voilà. Et Sarkozy le savait forcément, et s'amusait à dessein, à faire peuple, et à dire « Madame Royale »,« Madame Royale », alors qu'il savait que c'était une faute de goût.
Oui.
Mais il le faisait à dessein pour faire peuple, de la même façon qu'à mon avis, il restreignait
son
vocabulaire pour faire peuple. Et je pense que ça, c'est un tort.
Et en plus, je pense que, je vais dire un truc, que le peuple déteste parce qu'ils aiment bien les gens qui... Ou par les fleuris, si je veux dire.
Raconte l'histoire de ton père avec le défilé.
Ah oui, c'était incroyable. Mon père était donc officier, et c'était un officier républicain.
Plutôt de gauche.
Plutôt
jurassienne.
C'était le gauche jurassienne, mais il était très bien. Et donc, il défilait. Un jour, il y avait des officiers qui défilaient à cheval devant leurs troupes, et mon père défilait toujours à pied devant ses troupes. Alors j'ai dit pourquoi ? Mais il dit parce que j'ai pas de raison que moi je suis à cheval et je suis à pied. Bon, je m'étais dit oui, après tout, pourquoi pas. Et puis j'en ai parlé un jour à quelqu'un que j'aimais bien. Il m'a dit mais peut-être les soldats étaient très contents de le voir sur son cheval.
Parce qu'ils étaient fiers.
Parce qu'ils étaient fiers.
Ils étaient fiers de lui. Ils étaient fiers de dire nous, regarde ça, c'est notre colonel, il est à cheval, regarde comme il est beau.
Exactement. Donc je me suis dit tiens, c'est pas faux non plus. Donc il y a les deux aspects, mais le truc de justement d'avoir le chef homard. Qui a une très belle carapace, ben, ça me donne peut-être du poil aux pattes aux autres
homards. C'était drôle parce que quand un jour j'accompagnais la classe des filles pour aller à une messe et on passait à l'époque Carla Bruni avait accouché Rue Niccolo et on passe devant et il y avait Madame Poirier qui était la maîtresse et on passe devant et elle dit à la classe de CM1 rendez fiers, hein. Vous me rendez fiers, elle disait aux petits. Alors les petits se poussaient du col comme ça et tout. Et cette notion de rendre l'adulte fier et de
l'enfant.
L'enfant
rend l'adulte fier.
C'est ce que te disait ta mère quand vous étiez vacciné.
Ah, ça, c'était en Grèce.
C'était en Grèce.
On se faisait vacciner, donc il y avait des.
À l'époque, c'était au piston.
C'était un piston, et donc tous les enfants braillaient. Et ma mère nous a regardé. Donc, vous êtes des petits Français, vous pleurez pas.
Voilà.
On est petits Français, on pleure pas. Ah bon, ben d'accord, on pleure pas.
On pleure pas.
Et on l'a rendu fier.
Voilà. Et vous étiez fier de l'avoir rendu fier et de pas. Voilà, bon.
Donc ça, tout ça, ça part de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de. En fait, il faut apprendre aux gens à se tenir. Mm-hmm. Ce qu'on a appelé autrefois, tiens-toi bien.
Oui, mais ça passe par l'éducation et ça, il l'explique très bien. Et ce qui nous amène à la règle numéro 11. Alors que je l'ai entendu en parler, mais là il en parle, ne dérangez pas les enfants quand ils font du skateboard. Ce qui veut dire, c'est ne dérangez pas un enfant quand il fait quelque chose de dangereux prudemment.
Voilà.
Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc oui, il va probablement se rétamer. Alors quand on dit dangereux prudemment, c'est pas mettre les doigts dans les prises. Mais si un enfant est en train de monter sur un portique, faire du vélo, ne soyez pas derrière. Attention, tu vas. C'est comme ça que tu apprends. Hein, surtout les petits garçons. Les petites filles aussi, parce qu'on peut être casse-cou. Mais
moi, je me souviens, j'avais une petite fille qui était venue quand skier un jour à la montagne avec nous. Et elle m'avait annoncé fièrement, elle skiait pas très bien, qu'elle n'était pas tombée une fois de la journée. Ben, je lui avais dit, ben, c'est pas une bonne nouvelle. Hein, ça veut dire que t'as pas fait beaucoup de progrès. Mais en même temps, il faut bien que les enfants se cassent la gueule pour apprendre à. Tu montes pas à cheval sans un jour te gameler, quoi.
Oui, bien sûr, et ça fait partie du fait de, un, pas avoir peur de tomber, deux, pas avoir peur de la bête. Et quand tu tombes, bah, tu remontes. Et bon, alors un jour tu tombes un peu plus mal ou ainsi de suite, mais quand t'es jeune, t'es lax, tu te fais pas forcément mal. C'est comme. Tu tombes à 40 ans, tu peux te fracturer le coccyx et ainsi de suite. C'est pas comme.
Et à 80, je te dis pas.
Voilà. Là, on est sur du domaine de la tortue sur le dos. Mais quand t'as 12 ans, 13 ans, bah, tu tombes, tu te relèves. De toute façon, moi, mes enfants, ils tombaient à l'arrêt dans le salon. Alors.
C'était absolument. L'aînée, oui.
L'aînée, elle tombait en ligne droite. Il y avait rien, il y avait rien au milieu. Et tombée. Des enfants dyspraxiques.
Regarde, c'est la vieille blague du gamin qui passe devant sa mère en disant « Regarde, je fais du vélo, je sens les pieds, je fais du vélo, sans les mains, puis le troisième tour, c'est sans les dents. » C'est des vieilles blagues, mais c'est tout à fait ça ce qu'ils disent. Il faut le laisser avoir sans les dents.
Oui, c'est la notion du danger.
On sent qu'on a la notion de dents.
Du danger et de la maîtrise. Et ça, c'est assez important. D'ailleurs, tu parles de trucs de sans dents, mais c'est assez drôle parce qu'il parle à un moment des... du fait que le grand problème qu'il a avec le socialisme aujourd'hui, ça n'est pas véritablement une défense pour dire il faut que les pauvres, les gens qui ont des conditions de vie difficiles, accèdent à quelque chose de meilleur. C'est véritablement tourné vers une haine des riches.
Oui.
Et il reprend justement des discours socialistes des années 1900, donc on est en 1850, dans le bassin minier anglais, les conditions de vie. Et il disait, les dentistes du bassin minier constataient qu'à 30 ans, plus une seule personne n'avait des dents. les conditions étaient, c'est-à-dire, il fait, et de vie étaient de nourriture, de enfermer 7h30 à monter dans une montagne, dans des tout petits souterrains qui tenaient à peine le corps, plus une seule dent. D'ailleurs, très souvent, les gens se faisaient arracher les dents en disant les dents, c'est la plaie, on n'y arrivera pas. Et les discours anglais de l'époque ne relataient pas à la Chambre ces conditions difficiles. On était simplement sur une haine des riches, une haine de la transmission, une haine du patrimoine, mais pas véritablement une aide pour la condition ouvrière.
Et ça, on le voit très bien, c'est pas qu'ils aiment l'humanité, c'est qu'ils détestent leurs voisins.
Voilà, et je pense que c'est important, c'est que, et ça que les gens, j'espère, l'ont compris dans ta défense du libéralisme, c'est que...
C'est la défense de la liberté.
C'est la défense, en fait, du seul système capable de sortir les gens de la misère. Et c'est véritablement parce que tu t'es rendu compte que c'était véritablement la seule façon humaniste de tirer les gens de la misère. Ça serait le socialisme, on essaierait le socialisme, mais ça marche pas. Donc, force est de constater qu'on a pris le seul système qui marche, et c'est celui-là, parce que c'est le seul système qui, quand il est appliqué, permet aux plus humbles d'avoir accès et une vie meilleure.
Une vie meilleure, et surtout, si vous voulez, qui permet la réussite par des efforts individuels. Tandis que tous les autres systèmes disent « on va prendre à gauche pour donner à droite », mais on ne vous dit jamais qu'il y a quelqu'un qui va le prendre de force et qui va exercer la force pour prendre à gauche et qui va ensuite en garder 90% avant de donner à droite. Donc, le système socialiste implique la tyrannie de l'État. Mmh. Alors que dans le reste, si tu veux un type qui est vaillant, qui se met au boulot, etc., il peut espérer sortir. Donc, dans un cas, c'est des solutions individuelles, et dans l'autre, il y a une solution collective qui ne marche jamais. C'est pour ça que je suis libéral.
Et la règle numéro 12 que j'aime particulièrement, c'est caresser les chats que vous croisez dans la rue. Alors, bon, c'est évidemment une métaphore, mais c'est quelque part « keep an open mind », garder un esprit ouvert.
Moi, j'aurais remplacé par « souriez aux petits-enfants que vous voyez dans la rue ». Parce que on oublie, mais ces gamins qui ont 3-4 ans, qui marchent dans la rue, avec leurs parents ou pas, c'est grand, les adultes. Et donc, moi, chaque fois que je vois des petits, j'essaie toujours de leur faire des grands sourires, de leur répondre, simplement parce que je crois que quelqu'un qui leur sourit, ça doit les rassurer, non?
Oui.
Ils doivent se dire « le monde n'est pas hostile ». Il y a des gens qui ont l'air de gentils, là, celui-là, le vieux qui passe, là, il a l'air sympa. Et je crois que c'est très important, cette histoire, dans le fond, de regarder les... de faire des gestes gentils aux gens qui passent.
Mais déjà, regarder autrui, oui, avec bienveillance est toujours bon. Et quelque part, je pense que caresser les chats, c'est garder aussi un esprit enfantin. D'abord, il dit, moi, mon premier réflexe quand je vois ça, c'est de faire... Tu sais, t'as envie de l'appeler et en même temps de faire l'idiot, de le hisser, tu sais, de voilà. Mais de toute façon, quand t'aimes les animaux, j'ai remarqué, parce qu'il y a souvent des chats sauvages là où vous habitez, ou ainsi de suite, ils viennent vers toi.
Ils viennent vers toi, tout ça.
Moi, les chats, ils viennent naturellement vers moi, et d'ailleurs, ils viennent aussi vers les gens qui les aiment pas, parce que, en fait, c'est prouvé, quand tu n'aimes pas les chats, tu les regardes pas, et quand tu regardes pas un chat, ça veut dire que tu le défies pas, du coup, il vient vers toi. C'est des ânes, hein.
C'est des ânes. Les chats, c'est des animaux. J'aime bien être dans l'escalier au moment où tu descends, et de toute façon, il te fait faire tomber.
Non, mais le chat est un animal assez marrant, parce que il a choisi, à un instant T, d'être apprivoisé.
Oui.
On ne sait pas pourquoi. Le chien, on a très bien compris le rapport. Et il est véritablement.
Faut lui donner à bouffer.
Mais le chat, un instant dans l'histoire, l'homme l'a pris parce qu'on avait des greniers. Ça, à partir du moment où on est devenu sédentaire, on a pris des chats pour chasser les souris dans nos greniers. Mais on ne sait pas pourquoi les chats sont restés.
Y a Rudyard Kipling qui a été un très joli. Il a écrit un petit livre de contes pour enfants ou pour.
Oui, bien sûr.
Pourquoi la mer est salée, enfin bref, et là, et c'est pourquoi les chats, et c'est la maîtresse de maison qui a apprivoisé le chat en lui donnant du lait chaud, il s'est dit, bon, ça va, je veux bien rester et tout, mais dès qu'il sort de la maison, il y a les chiens et les hommes qui lui donnent des coups de pied, mais tant qu'il est dans la maison, on le laisse tranquille. Donc, pour du Rudyard Kipling, l'adoption des chats, c'était les femmes.
Oui, mais je pense que les femmes, le chat est un animal du chaos, et les femmes aussi, donc on est fait pour s'entendre.
Tout à fait. C'est bien, tu parles comme lui, d'ailleurs, il parle du chaos tout le temps.
Oui, mais c'est...
C'est une notion très forte, oui. Et ben voilà, donc on vous a parlé de cet homme, et maintenant, pour ceux qui parlent l'anglais...
Oui.
allez et tapez Jordan Peterson sur le YouTube et écoutez un peu ce qu'il dit.
Il y en a peut-être qui sont sous-titrés en français parce que comme il est quand même canadien, il y a peut-être des Québécois qui ont fait les sous-titres. Encore que comme souvent, ils n'aiment pas
Mais c'est un homme tout à fait exceptionnel. Je crois, je veux dire un truc, qui est fondamentalement bon. C'est-à-dire qu'il cherche à aider les gens. Et il s'est passé un phénomène extraordinaire, parce qu'il était professeur d'université, très bien. Et puis d'un seul coup, on lui a dit, vous devez, pour les hommes qui se transforment en femmes, les femmes qui sont, vous devez les appeler comme ils veulent. Et donc il a dit, écoutez...
Non, il a eu le courage, dans un Canada terriblement woke, l'époque de Justine Trudeau...
De dire, on ne me fera pas dire des choses que je ne veux pas dire.
De dire, bah, non, moi ça ne m'intéresse pas.
Dis, si le type me le demande personnellement, je le ferai pour lui rendre service et tout, mais en aucun cas, je ne vais accepter que ma parole soit dirigée. C'est la première fois dans le droit anglais qu'on forçait les gens à dire des mots. Et il dit, ça n'a jamais été accepté en droit. Donc il a refusé. Et à partir de là, il a commencé à parler sur les réseaux YouTube de ce qui lui arrivait. Et il a explosé. Et aujourd'hui, il a, je sais pas, 25 millions de membres qui le suivent.
Et de sorte qu'il est très souvent invité dans des talk shows, ainsi de suite, par des gens qui veulent absolument le confronter à ce qu'ils pensent une forme de nouveau racisme social sur le fait de ne pas dire she, her, les pronoms et toutes ces choses-là.
Et il est
droit dans ses bottes. Jamais insultant, et simplement où il dit non, moi c'est la limite de ma compréhension et de ma volonté de...
Il a eu une répartie célèbre qui m'a fait mon bonheur. Il a été interviewé par la grande intervieweuse britannique, un peu...
Oui, celle avec les cheveux blonds.
Celle avec les cheveux blonds et tout, et qui donc... qui avait été très agressif avec lui, et donc vous refusez d'appeler quelqu'un qui veut se faire appeler Chi... par son prénom, enfin par son nom, c'est une femme, bref, elle était très désagréable avec lui. Il lui dit, oui, vous savez, quand on discute avec les gens, on ne peut pas ne pas, de temps en temps, s'opposer à eux. Et par exemple, vous avez été très, très désagréable avec moi depuis le début de ce « je vous en veux pas ». Mais après tout, si c'est votre but d'essayer de me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Et donc, il l'a flingué en plein vol. La fille lui disait, qu'est-ce qui vous permet d'être désagréable avec les autres? Et lui, il disait, mais
qu'est-ce qui vous permet d'être désagréable avec moi?
C'est ce qu'elle a dit, ce qu'il lui a dit. Ça fait une heure que vous êtes désagréable avec moi, ça n'a pas l'air de vous gêner.
Et la fille a
explosé en vol.
Ce que je comprends pas, c'est que, quelle est l'arrogance à un instant T qui te permet de penser que tu vas traverser la vie, sans jamais avoir d'opposition à ce que tu voudrais?
Non, mais
justement,
c'est pas ça.
Est-ce que tu as traversé l'enfance?
C'est ce qu'il dit toujours. Si vous discutez comme ça, on va peut-être trouver des endroits où on va se séparer, mais il y en aura peut-être un ou deux, mais pas trop. Et puis, à partir du moment où vous avez 5 personnes dans la pièce, puis 10, puis 100, il y a automatiquement 10% de la population qui va être heurtée, blessée, surpris par quelque chose que vous allez dire. Et si je ne peux pas le dire, eh ben on meurt tous, d'ennui. Donc il dit, le propre de la discussion, c'est de blesser l'autre, ou de le faire réagir. Et ça, les gens de gauche ont du mal à le comprendre.
Mais je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on est dans un pays, alors nous ça va encore, mais on est dans un pays où il y avait quand même du journalisme d'opinion à l'origine, pourquoi on arrive dans un monde où, en définitive, on ne pourrait plus en avoir sous prétexte que ça ferait de la peine? Alors, à part le ad hominem...
Mais si on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur des enfants, il y a des moments où il faut leur faire de la peine, simplement pour leur bien.
Bah oui, parce que les doigts dans les prises, ça peut avoir des conséquences. Et puis simplement, il y a des réalités qui sont ainsi.
Et puis, je sais pas, par exemple, j'ai pas la même attitude que la plupart des gens sur des tas de sujets de société. J'en veux pas aux gens d'avoir une attitude différente ou une pensée différente, mais je le considère que j'ai le droit et même le devoir de dire ce que je pense.
Mais quelque part, et c'est un constat, à notre époque, la gauche est infiniment moins apte au dialogue que n'est la droite, et est infiniment moins apte à accepter une opinion différente de la sienne, et en cela, elle est devenue...
Et c'est ce que dit, j'ai entendu un jour Emmanuel Todd, qui disait, alors moi j'avais que des copains de gauche, etc., mais maintenant je ne peux plus discuter avec eux, donc tous les gens avec qui je peux discuter, maintenant ils sont de droite.
Bah oui.
Parce que la droite, ils acceptent facilement de discuter, ils disent, ouais, bon, c'est ton opinion.
On n'est pas d'accord, on se met sur la gueule une heure, et puis on verra bien.
Et puis on va boire une bière ensemble après, c'est comme
réunion. Oui, ou alors on passera pas les vacances ensemble, and so what, tu vois, mais ça ne fait pas insulte. Alors que tout de suite, la gauche, ils ont besoin de te ranger dans des sacs sémantiques.
Il y a des mots que tu ne peux pas dire.
Non, il y a des mots que tu ne peux pas dire, et puis il y a des agrégations. Alors si tu es de droite, tu es forcément identitaire, pro-Poutine, ainsi de suite. Mais enfin, par exemple, toi, tu dis que tu es libéral. Par définition, ça n'a rien à voir.
Je dois être le seul en France, je crois, avec deux ou trois libéraux. On songe à louer une cabine téléphonique pour faire notre congrès annuel. Voilà. Mais ce n'est pas parce que je suis tout seul que je vais commencer à devenir comme les autres. Je m'en fous d'être tout seul.
Non, non, je m'en fous complètement. C'est pas un problème.
C'est pas un problème. J'ai peut-être tort, et alors
bon, hein. Écoutez, en tout cas, je ne peux que vous recommander, si vous avez... cinq minutes de vous procurer cet ouvrage et de le lire. Moi, j'ai passé un excellent moment. Vous avez plein de références littéraires, historiques, religieuses, et vous en sortirez forcément meilleur et avec des réflexions. Et en termes de structuration de vie, si vous êtes plus jeune, je pense que vous avez des pistes aussi intéressantes. Et ça, c'est jamais perdu.
C'est jamais perdu, non. Voilà. En fait, il cherche à être le père qui a disparu. À donner des conseils de vie comme s'il était le père qui n'existe plus, quoi.
Et je pense que...
Et les garçons, ils sont très sensibles. Ou un prêtre.
Un guide de conscience, comme il y avait
le directeur de conscience, c'est vrai, c'était autrefois, ça on a beaucoup perdu, mais il y avait les directeurs de conscience, les prêtres qui avaient beaucoup d'expérience.
Oui, puis tu avais des pères plus âgés que tu allais voir quand tu étais à l'université, tu pouvais aller discuter avec ton directeur de thèse. Enfin voilà, des gens que tu allais voir en disant, excusez, j'ai des doutes, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je devrais aller vers là? On faisait plus ça avant, j'ai l'impression, on demandait des conseils quand même.
Je l'avais d'un rapport personnel, hein.
Oui, à des pairs, à PAIRS, c'est un peu disparu. On a des sociétés peut-être moins...
Moi, c'est comme ça que j'ai été dans l'économie. Mon père avait été voir, donc, qui était colonel, a été voir le directeur, le prof d'économie à Toulouse, qui était directeur de l'école de commerce, j'ai déjà dû le raconter. Et le directeur a dit, alors, votre fils, ce sera plutôt un officier supérieur, ou ce sera, mettons, un capitaine ou un commandant? Et il a dit, non, pas l'air trop couillon, ça devrait être... plutôt supérieur, il a dit, à ce moment-là, non, l'école de commerce, c'est pas pour lui qu'il fasse l'université. Donc, il était normal pour un père d'arriver avec ses enfants devant un homme qui était compétent dans la matière et de dire, alors voilà mon petit, oui, voilà ce qu'il est, et on le décrivait, et puis les types avaient d'expérience, donc ils jugeaient assez vite. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que moi, je connais pas tout, qu'est-ce que j'en fais? C'était normal. Et c'était des relations qui étaient... Du coup, quand tu étais... Tu te sentais redevable au professeur, tu vois ce que je veux dire? Tu avais une espèce de respect parce qu'il t'avait individualisé. Et je crois qu'aujourd'hui, ce dont sont beaucoup les étudiants, c'est que plus personne les individualise.
Non. Non, mais bon, après, plus personne s'individualise. Moi, quand je suis arrivée à ça, on était 3000 dans le grand amphi. Donc,
moi, j'étais 100 la première année, puis 4 en 4e année.
En DEA, on était 30. Donc, oui, là, t'es plus individualisé. Là, on te voit. Ouais.
Là, on te voit.
Voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir pu faire cette émission, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre et à le référencer. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires en bas. La semaine prochaine, on reprendra un sujet économique je pense qu'il va falloir qu'on fasse un sujet sur l'inflation, parce que là, on a une hausse de l'alimentaire qui arrive sur mars de 14%, et ça va être effrayant. On vous l'avait dit, mais c'est pas pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et voilà, on vous souhaite tout le meilleur pour ce début mars. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.